Le mois passé, nous avions eu le même genre de programme sur le thème « Sortir des prisons invisibles ». Amen. Comme je disais, les trois messages qui ont été donnés lors de ce programme-là étaient vraiment très puissants. Et j'attends tout simplement le moment propice pour pouvoir les sortir en coffret, en CD, MP3 avec les trois messages dedans. Ça, ce sont des messages qu'il faut toujours avoir sur soi. Amen. On a été vraiment très bénis et à travers ce message, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Des prisons invisibles se sont ouvertes. Alléluia. Des choses que tu ne soupçonnes pas, qui sont des blocages dans ta vie, ont été révélées. Amen. Ce qui fait que tu repères, donc c'est des, comme on le dit, des prisons invisibles. C'est des prisons, tu ne les vois pas. Mais elles agissent effectivement comme une prison. Elles ferment ton potentiel, elles bloquent ton potentiel, elles bloquent ton miracle, elles essaient de bloquer la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ces prisons-là vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, et pour les trois prochains jours, nous demeurons dans le jeûne et la prière, et nous crions à Dieu pour pouvoir renverser les forteresses. Dis à ton voisin, renverser les forteresses. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, on va rentrer en profondeur. Vendredi, on va prier. Amen. De Corinthiens 10, versets 3 à 5. Je lis. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous faisons quoi? Nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça veut dire que une pensée peut être captive. Amen. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'une pensée peut être captive. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de délivrance, les gens comprennent toujours et régulièrement et très rapidement la délivrance du corps ou la délivrance de l'âme ou la délivrance d'une maladie ou la délivrance de quelque chose qui nous touche et qui nous affecte. Mais il faut savoir que pour que le diable puisse avoir accès au corps de quelqu'un, à sa volonté, ou bien qu'il puisse avoir accès à certains domaines de sa vie, le diable a besoin d'avoir une autorisation pour ça. Il faut qu'il y ait une porte ouverte. Par contre, quand il s'agit de la pensée de l'homme, le diable n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir affecter la pensée d'un homme. La pensée d'un homme est comme un champ et le diable a le droit de venir semer ce qu'il veut dans ce champ-là. La pensée de l'homme est comme quelque chose qui est ouverte comme ça et puis, comme un homme de Dieu le disait, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Tu peux être là comme ça, et puis une pensée vient dans ton esprit, où il y a une pensée qui vient. Et la pensée te suggère de faire quelque chose qui n'est pas bien, par exemple. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Mais est-ce que tu as un contrôle sur les pensées qui vont venir dans ta tête? Vous voyez? Donc, le diable n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir t'attaquer au niveau des pensées. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le domaine où il y aura le plus de combats dans la vie d'un homme, ça sera dans ses pensées. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a un endroit où le diable veut avoir le contrôle, avant tout, c'est tes pensées. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. » C'est-à-dire que la pensée précède toujours l'action de l'homme. Il est difficile qu'un homme puisse agir sans avoir pensé auparavant. Vous voyez? Donc, il pense et puis il agit. Donc, si tu arrives à affecter sa pensée, tu vas arriver à affecter ses actes. Amen. Donc, le diable veut avoir accès à quoi? À la pensée. Donc, les esprits les plus dangereux, ce n'est pas les esprits qui font trembler les gens ou qui font tomber les gens. Ces esprits-là, c'est des petits. C'est la dernière catégorie des démons. C'est des démons qui sont faibles. Parce que quand ils entendent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez tomber sur un gars qui est vraiment possédé, qui a vraiment en lui des esprits terribles, quelqu'un qui a pouvoir de décision dans une nation. Voyez les gens comme les gouverneurs, les ministres, les gens qui sont en autorité. Allez le dire au nom de Jésus devant eux. Vous allez voir s'ils vont faire voir. Mais ils peuvent même vous rire au visage. Ils vous disent, mais ici, là, tu vois Jésus quelque part? C'est moi qui suis là. C'est moi qui prends la décision. Donc ces esprits qui traînent et qui tournent, ce n'est pas les plus puissants esprits. Les plus puissants esprits attaquent nos pensées. Ils se rendent maîtres de la pensée des gens. Pour ça que les païens, on a du mal à les amener pour beaucoup, pour certains, au Seigneur. Pourquoi? Parce que leur pensée est captive. Et la Bible nous dit que pour pouvoir renverser ces raisonnements, parce que la Bible parle de raisonnement, vous voyez? Vous savez, là, il nous dit qu'il y a une bataille. Hein? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, il nous explique qu'il y a un combat. Et que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. OK? Jusque-là, on est dans notre environnement. Mais après, il dit quoi? Il dit que mais elles sont puissantes, donc ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Amen. Là, on ne parle plus de chasser les démons. On parle de quoi? De renverser des forteresses. Vous savez, il y a une différence entre chasser un démon et puis renverser une forteresse. Renverser une forteresse a plus d'efficacité et a plus d'impact dans la vie d'un homme que de chasser un démon. Parce que quand vous chassez un démon, il va, il revient. Il va revenir. Tant qu'il y a une forteresse, il va revenir. Parce que la forteresse, c'est une maison. Et qui dit forteresse, dit maison fortifiée. Et une maison fortifiée, c'est la maison des démons. Quand ils sont là-bas, ils sont à l'aise. Donc, si tu chasses un esprit, mais qu'il y a une forteresse qui est là, qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va aller se mettre dans la forteresse. Et quand il est dedans, là, il dit, maintenant je suis là, je suis dedans, chasse-moi, on va voir. Il est quasiment impossible de chasser un démon qui est dans une forteresse. Vous savez, pour prendre, en temps de guerre, les gens essaient de prendre des forteresses. Pour prendre une forteresse, tu es obligé de sacrifier une bonne partie de ton armée, parce que c'est dangereux. Quand un militaire est dans une forteresse, c'est comme s'il est dans une maison blindée. Donc, il est entouré de béton. il y a juste un petit trou comme ça. Et puis, il met le bout de sa mitraillette dedans. Donc, lui seul, il peut tuer 150, 200, 300 personnes. Pour prendre la forteresse là, prendre une forteresse, c'est la chose la plus difficile et la chose la plus dure. Chasser un esprit, ça c'est facile. Renverser une forteresse. Pour ça, nous avons besoin, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parce que nous combattons, il s'agit de combat. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, il dit, nous renversons les raisonnements. Nous, on allait penser que ça allait être, je ne sais pas, nous renversons, et puis il dit, les raisonnements. Amen. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, on voit raisonnement, on voit quoi? Connaissance. Si je te dis aujourd'hui, café, confiture et pain, toi, tu me réponds quoi? Hein? Obligé. Je te dis café, confiture, pain, tu vas me répondre petit déjeuner. C'est normal, c'est ça. Quand maintenant on dit raisonnement, connaissance, pensée, ça te fait penser à quoi? À la pensée, au cerveau, à la tête. Raisonnement. La personne raisonne. Elle discute. Elle argumente. Oui, c'est vrai, la Bible dit que, mais moi je pense que. La Bible dit que, mais est-ce que dans ce cas de figure, on ne peut pas faire une petite entorse, par exemple, à ce que, parce que au jour d'aujourd'hui, ce que la Bible dit, on peut pas vraiment le faire. Oui, la Bible dit, mais. Quand tu dis la Bible dit mais là, tu vois, tu es en train de raisonner. La Bible dit mais. Quand la Bible dit, il n'y a pas mais. Alléluia. La Bible dit mais, tu rentres en même temps dans quoi? Dans les raisonnements. Et les raisonnements, c'est quoi? C'est des forteresses. À partir du moment où tu dis, ok, que la Bible dit mais, le démon voit automatiquement l'opportunité de venir se mettre dans cette partie de ta pensée où tu autorises la Bible à ne pas avoir accès. Donc, tant qu'il est là-bas, on a beau crier au nom de Jésus jusqu'à... On a beau faire tout ce qu'on veut, l'esprit ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une forteresse. Et cette forteresse-là, c'est toi-même qui l'as érigée. Les pensées sont très importantes. Hein. En réalité, beaucoup de personnes ne font pas très attention à leurs pensées. Ah, j'ai pensé, mais fais attention à ta pensée parce que c'est l'endroit même que le diable essaie de contrôler. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Il dit, au verset 3 plutôt, je lis à partir du verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ok? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a voilé? Hein? Il a voilé quoi? Qu'est-ce que vous avez chaud ou quoi? Je ne sais pas, vous êtes au ralenti là. Qu'est-ce qu'il a voilé? Il a voilé l'intelligence. Qui a voilé l'intelligence? La Bible l'appelle quoi? Le Dieu de ce siècle. Ça veut dire que celui qui arrive à contrôler l'intelligence des gens, il est leur Dieu. Et Satan est le Dieu de ce siècle parce qu'il a pu voiler l'intelligence de beaucoup de personnes. Amen. Vous allez rencontrer plus de personnes dont l'intelligence est voilée que de personnes qui sont démonisées au stade primaire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Les gens qui ont des tocs ou des tics ou je ne sais pas quoi, des gens qui ont des manifestations, ça, ce n'est pas les gens possédés les plus dangereux. Un gars comme ça, il ne peut pas devenir premier ministre. À aucun moment, il va avoir la possibilité de prendre une décision qui peut affecter même une ville ou bien même un quartier ou bien un pays. Donc, si le diable, sa priorité, c'est d'attaquer les pensées des gens, okay, et qu'il a la capacité de le faire, en ayant un libre accès, le diable a libre accès aux pensées des gens. Il a pu attaquer Jésus dans ses pensées. Il a pu attaquer Pierre dans ses pensées. Il a pu attaquer Judas dans ses pensées. Lorsqu'il a attaqué l'homme dans le jardin d'Éden, c'était dans ses pensées. Il n'y a personne qui est immunisé pour dire que non, j'ai une protection, un bouclier spécial contre les pensées du diable. Tant que le diable existera, il va pouvoir attaquer les pensées de tout homme sur la terre. Donc, si quelqu'un est le diable et il est intelligent, il est rusé, il est malin, tu vas perdre quoi, tout quel temps à aller attaquer les pensées de la vendeuse d'Aloco ou bien du boucher du quartier. Si tu dois faire une échelle de priorité dans les gens, dans les gens dont tu dois contrôler les pensées, tu commences d'abord par le président de la République, le premier ministre, les députés, les généraux, les ambassadeurs, tous ces gens-là. Et c'est comme ça que tu deviens les journalistes. Les députés, comme ça tu fais passer tes lois. À tel point que dans la Bible, il est écrit que même les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais le diable arrive à faire de telle sorte que toute personne qui se prononce contre l'homosexualité peut être condamnée et aller en prison. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on parle de combat spirituel, et puis les gens sont sur une fille qui est en train de trembler. C'est un travail primaire. La vraie délivrance de quelqu'un ne s'opère pas dans ce genre de manifestation. Ce genre de manifestation est nécessaire, effectivement, pour certaines personnes. Mais je vous dis qu'il y a une délivrance qui est beaucoup plus grande que celle-là. C'est lorsque les forteresses qui sont dans la tête de la personne commencent à tomber, les démons sont à nu, tu claques des doigts, ils sortent. Mais vous avez des gens, première veillée, elle manifeste. Deuxième veillée, elle manifeste. Troisième veillée, elle manifeste. Un prophète vient des États-Unis, quand il prophétise, c'est elle qui tombe. Un autre prophète vient de l'Angleterre. Quand il prophétise, c'est un autre qui tombe. C'est elle-même qui tombe. Des fois, c'est dans le même programme, la même personne. Vous avez trois orateurs différents. À chaque ministère, c'est la même personne qui va manifester avec les trois orateurs. C'est qu'il y a un problème. Quand vous mettez un lézard dans une pièce et que vous fermez la porte, vous allez courir. Le lézard, là, il va courir. C'est-à-dire que les manifestations, là, c'est que le lézard n'a pas trouvé la porte pour sortir. Si la porte était ouverte, là, le lézard, il allait sortir direct. Il n'allait pas tourner. Donc, quand la personne tourne, là, c'est que, en réalité, son vrai problème, c'est une forteresse. Je ne sais pas si... Je vous parle de choses sérieuses. Amen. Amen. Les pensées sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les pensées rebelles. Il faut les maîtriser pour qu'elles... C'est ce qu'il dit. Il dit, nous amenons tout raisonnement et toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'il y a des pensées qui sont captives. Elles sont en prison. Et le but de l'homme de Dieu, c'est d'amener cette pensée-là, justement, à obéir à Christ. Parce qu'en se faisant, il y a une délivrance qui s'opère. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une délivrance qui s'opère lorsqu'on connaît la vérité et qu'on accepte cette vérité-là et qu'on s'impose cette vérité dans la pensée. Parce que tant que le diable arrive à te faire penser que ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible pour toi. Si tu penses que c'est possible, c'est possible. Si tu penses que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, beaucoup d'hommes noirs pensaient que ce n'était pas possible de devenir président des États-Unis. Et un matin, il y a un jeune homme qui s'est levé. Lui-même, il n'est même pas américain noir, en fait. Il est d'origine africaine. Et dans son nom, il y a Barack Hussein. Donc, il a le même Hussein Obama. Et le terroriste, là, comment il s'appelle? Oussama Ben Laden. Les noms, là, ont à peu près la même. Donc, lui, il a même un nom qui a une origine islamiste. Originaire du Kenya, par son père. Donc, il n'est pas américain noir, il n'est pas descendant d'esclaves. Mais un matin, il s'est dit, je pense que je peux devenir président des États-Unis. Alléluia. Devant Hillary Clinton, celle qu'on a dit, non, la place là, c'est réservé pour Hillary, elle doit être présidente. Barack Obama a dit, non, je pense que je peux gagner même contre Hillary. Les gens ont dit, mais il est fou lui. Mais il a fait ces deux quinquennats, tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que c'était possible. Oh my God. Si tu penses que véritablement tu peux t'en sortir, et puis c'est même pas t'en sortir, pourquoi penser que tu peux t'en sortir seulement? Faut penser que tu peux te retrouver au sommet du monde dans quelques mois ou dans quelques années. Il faut penser que le miracle est possible, que les choses peuvent se faire. Si tu penses que c'est pas possible pour toi. Si tu penses que cela est possible. Et tous ceux qui ont pu obtenir quelque chose sur cette terre-là, c'est parce qu'ils ont pensé que c'était possible. Quelqu'un s'est levé et s'est dit, je pense que je peux avoir un hôtel. Un autre s'est levé et a dit, je pense que je peux avoir un restaurant. L'autre s'est levé et dit, je pense que je peux créer une entreprise. Amen. Alléluia. Et puis d'autres aussi disent que moi, je pense que cette terre-là, elle est pour les uns, il y a les uns. Il y a les autres, et puis il y a les etc. Et moi, je suis etc. Non, il ne faut pas penser ça. 2 Corinthiens 3, verset 14. Je dis, c'est l'introduction. Hein? Donc, je vous donne quelques versets, je pose la chose. Demain, on approfondit. Vendredi, on prie. 2 Corinthiens 3, 14. Donc, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pendant ces 3 jours de jeûne et prière? Prie Dieu et demande à Dieu de te révéler toutes tes pensées qui sont captives. Toutes tes pensées qui sont à l'encontre de sa parole auxquelles tu t'accroches. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des gens qui ont bâti des forteresses de pauvreté dans leur vie. Il y a des gens qui ont bâti des forteresses qui permettent à des esprits de Jézabel de se manifester. Il y a des gens qui ont bâti des forteresses qui permettent à des esprits bizarres de se manifester. Donc toutes ces forteresses-là, toutes ces pensées captives-là, que le Seigneur te les montre une à une. Et que ces pensées captives-là, qu'elles tombent et qu'elles obéissent à Christ. Amen. Qu'elles obéissent à Christ. 2 Corinthiens 3, 14, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit... Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tu vois. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, parce que là, il parle des Juifs d'Israël. Amen. Au 12, il dit, ayant donc cette espérance que nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, pas des Juifs. Ils sont devenus quoi? Durs d'entendement. Le problème, c'est que quand quelqu'un a une forteresse dans sa tête, il a du mal à comprendre. Tu peux, vous savez, vous pouvez prêcher l'évangile. Et puis, on va dire, oh, le message, il est bon. Hey, vraiment, c'est intéressant. Il va rire aux parties où on rit. Il va pleurer aux parties où on pleure. Il va dire alléluia aux parties où on dit alléluia. Et il va dire amen aux parties où on dit amen. Mais il est dur d'entendement. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait quoi? Il a voilé son intelligence. Ce voile-là est déchiré au nom de Jésus. Romains 8, 7. Romains 8, 7. Il dit, Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voyez, il y a la loi de Dieu et puis il y a la chair. La pensée, c'est la chair. Et la Bible dit que l'affection de la chair, c'est-à-dire que quand tu mets la priorité aux choses que tu penses, parce que vous avez trop de personnes lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils parlent, il y a plus de « moi je pense que de « la Bible dit que ». Tu vois ? Il y a trop de « moi je pense que » par rapport à « la Bible dit que ». La Bible dit que, femme, soyez soumise à votre mari. Mais moi, je pense que, est-ce que vous comprenez? Ou la Bible dit que, soyez apportés dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mais moi, je pense que, c'était avant, mais maintenant là, avec toutes les factures que j'ai et tout ça là, et puis les difficultés que... Moi, je pense que ce n'est pas possible de faire ça maintenant, aujourd'hui. Personne ne peut s'amuser à manger l'argent de Dieu. Franchement, il dit, les premiers sont à moi, la dîme est à moi. Il dit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans ma dîme. Il dit, c'est pour moi. Mais il y a une forteresse dans votre pensée. Il y a une partie de votre cerveau qui est hermétiquement fermée à la possibilité pour vous de donner à Dieu le dixième de votre revenu. Ça veut dire qu'il y a une partie de votre pensée où l'esprit vous tient comme ça. Quand on arrive là-bas, là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est dans une forteresse. Oui, la Bible dit de donner la dîme, mais moi je pense que. C'est pas comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de domaines, plein de domaines. Et on va explorer une large partie de ces domaines-là demain. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des forteresses dans leur pensée de pauvreté. Pour eux, Dieu ne peut pas vouloir que ses enfants soient riches. Ou Dieu, que la richesse. Il y a des gens, pour eux, quand quelqu'un est riche, là, c'est que c'est le diable. C'est le diable. Or, c'est la même Bible qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, des fois, tu vois quelqu'un là, il monte dans une belle berline. Ah, c'est un homme de Dieu qui donnait une fois son témoignage comme ça. Il dit qu'il y avait dans sa ville là un gars qui était tellement riche, il avait les plus belles voitures. Il dit toujours, il voit le monsieur se promener dans la ville des fois, de temps en temps, machin, au volant de voitures de rêve. Et puis dans sa inconsciemment, il se dit toujours, mais qu'est-ce que cet homme-là même là, il a bien pu faire de mauvais pour avoir toutes ces choses-là. C'est-à-dire que lui, dans son esprit, là, c'était... Un sataniste, un gars qui était dans les collections mafieuses et qui faisait des trucs, tout ça. Et un jour, sa femme, à lui, est devenue amie avec la femme du monsieur. Et un dimanche, ils les ont invités chez eux à la maison. Donc lui, il arrivait en se disant, aujourd'hui là, l'enfant de Dieu est rentré dans le monde des ténèbres. Lui, il va briser, il va prier, il va sanctifier tout ça. Quand il arrive, il voit à l'entrée de la maison, il voit propriété du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est pas au portail, c'est à l'entrée. Donc quand il arrive maintenant, il voit le monsieur, mais un homme simple. Qu'il accueille avec amour. Oh mon frère, que Dieu vous bénisse. Ah, et pas la petite. Après, il rentre dans la maison. Grand salon, grande salle à manger, machin. Bon dîner et tout. Avant de manger, il dit, nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Oh my God, le gars là.
il sait plus où il est. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pour lui, en fait, il y a une forteresse dans sa tête qui fait qu'il peut pas croire que Dieu qui a dit que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis ne peut pas enrichir quelqu'un. C'est une forteresse. Les forteresses sont dangereuses parce que les forteresses nous rendent durs d'entendement. C'est-à-dire qu'on peut entendre le verset 50 fois, mais on va pas croire. Vous pensez que les Juifs ils lisent pas l'Ancien Testament? Vous pensez que les Juifs ne lisent pas la partie qui dit que tel un agneau qu'on mène à l'abattoir, il fut emmené par ses meurtrissus, nous avons été guéris? Croyez que les Juifs ne lisent pas la partie de Psaume où David dit que je voyais mon Seigneur, où il parlait de la crucifixion? Ils lisent ça, mais il y a quelque chose là qui fait qu'ils ne peuvent pas voir Christ dans la Bible, alors qu'on parle de lui dans la Genèse, alors qu'on parle de lui dans Exode, alors qu'on parle de lui dans Isaïe, dans les psaumes, dans les proverbes. On parle de Jésus dans tout l'Ancien Testament. Mais les Juifs, ils lisent l'Ancien Testament tous les jours, mais ils ne peuvent pas voir Christ dedans. C'est comme ça qu'agit une forteresse. Une forteresse fait que le verset même qui va apporter la délivrance dans ta vie, tu le lis, mais tu ne le comprends pas. Ou tu ne crois pas. Donc il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Il a besoin qu'on pense que c'est possible. Il a besoin qu'on croit ça pour que ces choses-là puissent se manifester. C'est pour ça qu'il a dit à la femme, « Femme, va, ta foi t'a sauvée. » Mais la foi, c'est quoi? C'est de penser que c'est possible. La femme est venue avec l'enfant. Seigneur, dis seulement un mot, mon enfant sera guéri. Le Seigneur dit, écoute, moi je ne suis pas venu pour les chiens. Je suis venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que je suis venu pour les Juifs. Mais la femme dit, mais moi je sais que je ne suis pas juif, mais je crois que c'est possible que, même si je ne suis pas juif, les miettes du pain qui est réservé aux Juifs là, peuvent guérir moi, mon enfant. Oh! Alléluia! Je pense que les miettes de l'onction, je pense que ça peut agir pour moi. Vous savez, beaucoup de personnes rentrent dans les églises, ils ressortent sans leur miracle et tout, sans leur bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut que le pasteur leur impose les mains d'abord avant qu'ils reçoivent quelque chose. Ce qui fait qu'ils viennent à un programme. Pendant tout le programme, on va parler sur leurs besoins. Comme si on avait prévenu le pasteur qu'ils allaient venir. Il va parler exactement de leurs problèmes, de leur situation. Mais tout le temps de la prédication, là, il n'y a aucun mot même qui rentre dans son oreille. La personne est assise là. À quel moment il va finir de parler? Et puis, on va se voir dans son bureau pour qu'il puisse me poser les mains. Des fois, toi-même, tu es étonné. Quand tu as fini de faire une réunion, tu as fini de parler des choses qui sont vraiment importantes et tout, et tu reçois la personne dans ton bureau, et la personne vient te dire, en fait, je suis venu, j'aimerais que vous priez pour moi, alors que c'est le sujet pour lequel vous avez prié avant que tu montes là. C'est le même sujet que la personne va demander. Alors que le centenier ou le gars de la cohorte italienne, il dit, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est malade. Le Seigneur dit, dis-moi où il est, je vais aller prier pour lui. Il dit, moi-même là, je suis dans l'armée. J'ai des subordonnés. Quand je dis un tel, fais ceci, il le fait. Quand je dis un autre, fais cela, il le fait. Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur là sera guéri. Oh my God. Tu vois? Si tu penses que d'abord, tu dois nettoyer le sol de l'église là, comme s'il n'y avait pas assez de serpillères, pour que Dieu agisse dans ta vie, mais c'est ça le problème du folklore. C'est-à-dire que, attends, les gens n'ont pas besoin de traîner comme des lézards par terre pour que Dieu agisse dans leur vie. Sinon, ça voulait dire quoi? Que tous ceux dans la vie desquels Dieu a agi là, ils ont forcément traîné par terre? À cause de ça, certaines personnes, quand vous leur dites, je t'invite à l'église, ils disent, quelle église, quel programme? Il a peur. Parce qu'il se dit que, pour qu'il reçoive quelque chose, il faut qu'il... Et puis, il y a des pasteurs aussi, c'est comme s'il y a une forteresse dans leur tête. C'est que tant que la personne n'est pas tombée, il n'a pas reçu. Donc, il faut mettre sa tête comme ça, comme ça. Des fois, ils prennent des positions de kung-fu. Ah! Faut que la personne tombe, forcée. S'il ne tombe pas, il ne peut pas recevoir. Mais qui a dit, dites-moi, dans les miracles que Jésus a accomplis, là, combien de personnes sont tombées? La femme dont l'enfant était guéri, là, est-ce qu'elle est tombée? Son enfant est tombé. Le gars l'Italien, le centenier, là, il est tombé? Son serviteur qui était dans la chambre, est-ce qu'il est tombé? Il y a même eu une histoire comme ça avec le prophète Élisée. Élisée est chez lui à la maison. Il y a un roi qui dit il va venir recevoir la guérison de la lèpre. Il s'appelle un général, le général Naaman. Général Naaman arrive, il dit, j'ai appris qu'il y a un prophète en Israël. Que quand il dit quelque chose, cette chose-là arrive. Je suis venu le voir pour qu'il me libère de ma lèpre. Élisée n'est même pas venu sur le balcon. Il était dans sa chambre, dans son salon là-bas, et il crie, « Dites au général d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. » Donc, la parole arrivait comme ça pour toucher les oreilles du général Naaman. Le général Naaman s'est fâché en même temps. Il dit, « Si c'est ça, moi, je retourne chez moi. » Il dit, « Mais ça veut dire quoi, ça ? Moi, je pensais que le prophète allait m'appeler. » Qu'il allait verser de l'huile sur ma tête. Qu'il allait faire un peu de position là. Et puis, m'attraper mes pieds. Et puis, un moment, il allait tourner ma tête comme ça. Et puis, j'allais être guéri. Mais il est là, il me dit d'aller me laver 7 fois, me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Est-ce que les eaux sales du Jourdain là, est-ce que c'est mieux que l'eau de chez moi? Il avait une forteresse qui voulait le garder dans sa lèpre. Sur le chemin, au moment où il passait maintenant près des eaux du Jourdain, un de ses conseillers avait dit, « Mais mon général, ça fait quoi même ? Le prophète a dit de plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Ben, les eaux du Jourdain là, plonge 7 fois, mais non, si tu n'es pas guéri, tu peux te plaindre. Mais comme tu pensais que ça allait venir d'une manière, vous savez, beaucoup de personnes prient, Dieu, Seigneur, agis, Seigneur, fais, Seigneur, non, non. Mais ils ne sont pas ouverts aux milliards de manières de Dieu de pouvoir agir dans leurs circonstances et dans leurs situations. Il dit à Dieu, agis, mais agis comme je vais te dire d'agir. Fais comme je vais te dire de faire, comme si Dieu était un petit chien et puis c'est nous, on lui dit de faire comme si ou de faire comme ça. Mais confie ton sujet à Dieu, mais laisse-le agir comme il a envie d'agir. Et quand il te donne une instruction, il ne faut pas que ce soit toi qui lui dise l'instruction qu'il doit te donner. Il va te donner une instruction qui ne sera pas forcément l'instruction que tu attendais. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à cette instruction-là. Et la forteresse vient pour faire quoi? Pour t'empêcher d'obéir. Quand il y a un domaine de la parole dans lequel tu ne peux pas obéir, c'est qu'il y a une forteresse là-bas. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la bénédiction et la malédiction, c'est essentiellement une question d'obéissance et de désobéissance. Deutéronome. Amen. 18. Quand tu commences à lire, il dit, si tu obéis, voilà, 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 voilà. Si tu désobéis, voilà, voilà. Mais vous savez, c'est les forteresses qui font qu'on désobéit. C'est les forteresses qui font qu'on désobéit. Si, on dit, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir de rapport sexuel. Oui, mais ça là, c'est un peu bizarre. On dirait que l'apôtre là, quand il écrivait ça, il n'était pas au courant du 21e siècle. Il n'était pas au courant. Parce que de nos jours-là, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un évangile pour l'an 0 et puis un évangile pour l'an 2000? Il y a un évangile pour les hommes. C'est l'évangile du salut. Tous ceux qui veulent être sauvés, ils doivent suivre cet évangile-là. Amen. Quels que soient les temps,
quelles que soient les saisons et quelles que soient les circonstances. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens 2, 3. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Amen. Donc, les païens, comment ils sont ? Il dit, on était de leur nombre. Donc, en fait, il dit, on était comme les païens. On vivait autrefois selon la convoitise de notre chair. Donc, c'est la chair, c'est la convoitise de notre chair qui nous guidait. OK ? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On accomplit les volontés de nos pensées. Amen. Et il dit, et nous étions par nature des enfants de la colère. Ça veut dire quoi ? Que le diable peut définir ta nature par tes pensées. Il peut te mettre en palabre avec Dieu en ayant accès à tes pensées. Parce que le païen est défini comme ça. Il a une manière de penser qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de oui, j'appartiens à l'église, j'ai ma carte de membre. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit ? Repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire quoi ? Changer de pensée. Il n'a pas dit changer. Vous savez, vous ne pouvez pas changer la couleur de votre peau. Il y en a qui essaient. Vous ne pouvez pas changer votre cœur. Vous ne pouvez pas changer vos bras. Vous ne pouvez pas changer. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas changer. Donc, Dieu ne peut pas vous demander de changer. Mais il vous demande de changer quoi ? Parce que ce sont vos pensées qui peuvent changer. Quelqu'un, par ses pensées, peut être loin de Dieu. Et par ses mêmes pensées, il peut être proche de Dieu. Amen. Donc, le plus gros du travail se fait au niveau de la pensée. Ce dont on parle, c'est quelque chose qui est un niveau de profondeur beaucoup plus avancé que le simple stade de délivrance. Vous comprenez ? C'est quelque chose qui va plus loin que la délivrance. Parce que, vous savez, tout homme, je dis bien tout homme, quel que soit son niveau d'onction, quel que soit son niveau de connaissance de la parole, quel que soit son niveau, son ancienneté avec Dieu, s'il permet à une forteresse de s'installer dans sa pensée, il permet à un démon d'entrer et de faire ce qu'il veut dans sa vie. C'est ce qui fait que, des fois, de grands hommes de Dieu peuvent tomber parce que s'érigent dans leur tête des pensées qui sont venues de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ? Et dans le monde dans lequel nous sommes, conditionne nos pensées. Ils veulent que tu penses que l'homosexualité est normale. Ils veulent que tu penses que, et ça je vais choquer beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais ils veulent que tu penses que l'homme et la femme, ils sont égaux. Ça vous choque. C'est la même chose. La femme et l'homme, c'est pareil. Oh, c'est la Bible qui dit que l'homme et la femme, amen, ne sont pas égaux. Si tu as du mal à comprendre ça, c'est que déjà, la forteresse là, elle est déjà établie. Il n'y a pas femme-garçon, il y a femme. Et puis il y a garçon. Mais moi je dis, mais pourquoi on dit qu'on est pareil, on est même chose? Pourquoi est-ce qu'il y a 100 mètres homme et puis 100 mètres femme? Faites 100 mètres et puis vous mettez homme et femme. Vous allez voir combien de femmes
qu'on gagnait. Pourquoi est-ce que on fait boxe, il y a des catégories, il y a boxe homme et puis boxe femme. C'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent frapper des garçons. Mais si vous mettez les meilleurs boxeurs, les meilleures boxeuses, je ne sais pas, c'est la Bible qui dit ça. C'est pour ça que la femme a besoin de l'homme. L'homme aussi a besoin de la femme. Les deux sont complémentaires. Mais dans la hiérarchie, il a dit, il a établi l'homme sur la femme. C'est anormal que la femme domine sur l'homme. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Comprenez? Et l'esprit de Jézabel peut affecter n'importe qui. Il suffit simplement que tu acceptes que ce côté-là de ta pensée soit affecté. Ça crée en même temps une forteresse. Et dès qu'il y a une forteresse, qu'est-ce que les esprits font? Ils viennent s'installer dedans. Est-ce que vous me suivez? Dis à ton voisin, on va renverser les forteresses. Vous voyez, les forteresses, on les renverse. Les démons, on les chasse. Les forteresses, on les renverse. Vous ne pouvez pas chasser une forteresse. Alléluia. Il faut prier contre les forteresses. Mauvaise pensée, sort de ma tête au nom de Jésus. Non, il y a une manière de changer la pensée. Tu ne peux pas changer la pensée de quelqu'un par imposition des mains. C'est pour ça que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, les armes, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs armes. Et tu as plusieurs armes pour plusieurs ennemis différents. Il y a des armes pour certains démons et il y a des armes pour les forteresses. Tu ne peux pas aller renverser une forteresse avec une mitraillette. Tu ne peux pas aller renverser une forteresse avec un couteau ou un pistolet ou bien même un fusil d'assaut. Même un lance-roquette même. Tire lance-roquette sur une forteresse, ça ne bouge pas. La seule manière de pouvoir faire tomber une forteresse, c'est avec un char d'assaut ou bien un avion de combat. Si tu n'as pas ça, laisse. Pourquoi? Parce que tu ne pourras rien faire. On va te tuer même avant que tu arrives à voir le trou qu'ils ont fait dans la forteresse pour tirer là. Tu vas faire comme ça, pour regarder, pour voir où il est là. Paf, là-bas va rentrer. Parce que lui, il te voit très bien. Tu es découvert. Alors que l'autre, il est caché. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que, regardez, l'efficacité première d'une forteresse, c'est quoi? C'est que tu ne sais même pas qu'elle est là, qu'elle existe. Mais elle est là. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Toujours, je chasse l'esprit, je chasse. Mais il me fatigue toujours. Oui, parce qu'il sait où il va dormir la nuit. Et puis il sait quand on commence à prier fort, fort. Là, il sait où il doit aller se mettre. Ah, ils ont commencé encore leur chose. Bon, allez, moi, je vais aller me caler là. Et puis, il est dans un bunker même. Il est là. Et puis, il attend seulement que les choses passent. Or, quand tu sais que cette forteresse en question, cette maison de démons en question, ce n'est qu'une pensée. Alléluia. Ce n'est qu'une pensée. C'est là que tu vois que le plus gros travail de délivrance dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas les prières de délivrance. Le plus gros travail de délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et le fait de conformer sa vie à toute vérité qu'il va trouver dans la parole sans délai. Dis à ton voisin, sans délai. Colossiens 1, verset 21. On va finir avec ça. Voyez, Colossiens 1, 21, vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc on était quoi? Étrangers et ennemis. Mais comment? Par nos pensées.
Vous voyez? Nous sommes, en fait, c'est nos pensées qui définissent si on est ennemi, étranger, ou bien si on est fils ou fille. C'est nos pensées. Parce que tu peux être assis dans l'église, mais avec les pensées du monde. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Ils viennent à l'église, mais moi je trouve ça un peu bizarre, hein, la manière de fonctionner là. Nous, dans notre entreprise, ce genre d'attitude. Mais enfin, on n'est pas dans ton entreprise. On est dans le royaume de Dieu. Je pense que qui est une personne à la tête d'une église, ça ressemble à de la dictature. Les décisions devraient se voter. Je pense que ça, c'est la démocratie. Excuse-moi, dans le royaume de Dieu là-bas, là, c'est la théocratie, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Donc, il y a des gens, ils sont assis dans l'église, mais avec les pensées du monde. Or, c'est par nos pensées que nous sommes définis. Il dit, vous étiez autrefois étrangers, ennemis. Comment? Par vos pensées. Donc, si aujourd'hui, moi, je suis dans la maison et que je commence à adopter les pensées du monde, je deviens quoi? Ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, là? Ou bien ça cogne trop parce que vous êtes un peu... Hein? Le terrain de prédilection de l'ennemi, c'est donc quoi? C'est l'intelligence. Amen. C'est votre intelligence, c'est votre pensée. Pour contrôler les autres choses, votre volonté, votre corps, les sentiments. Parce que l'ennemi peut vous inspirer des sentiments. Pour contrôler toutes ces choses-là, il a besoin d'avoir un accès. Il faut qu'il y ait une porte. Obligé. Par contre, quand il s'agit de votre pensée, c'est une terre fertile. C'est un terrain libre. En quoi, comment vous pouvez l'empêcher? La plupart des tentations viennent comment? Les tentations viennent comment? Dans la pensée. C'est dans la pensée. Les tentations viennent dans la pensée. Or, une tentation, c'est quoi? C'est une suggestion de l'ennemi. Tentation. Tu es là, tu regardes le truc, tu sais que tu ne dois pas faire. Tu as dit, mais regarde, mais, qui te voit même? Si tu fais là, tu vas voir quoi. Fais, tu vas voir, c'est tout, tu vas voir. Mais c'est ça qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Ève, elle passe, elle dit, mais regarde l'arbre là, le fruit là. Elle dit, quel fruit? Elle dit, mais ce fruit là, Dieu nous a défendu de manger de ce fruit. Elle dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit que si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va nous faire du mal. Le diable dit, mais quoi, qu'est-ce que tu dis, truc? On va mourir. Mais quel mourir? Mourir de quoi? Vous savez, Dieu là, il est pas bien. C'est-à-dire qu'il arrive à semer le doute dans la tête d'Ève. En lui disant, tu sais, Dieu là, il est pas bien. Il est mauvais. C'est parce qu'il sait que si tu manges ça, là, tu vas devenir comme lui. La Bible dit que les yeux d'Ève ont changé. C'est-à-dire que la Bible dit qu'elle vit que le fruit là était bon. Mais comment tu sais qu'un fruit est bon si tu n'as pas mangé? Mais la suggestion a précédé même les sensations gustatives. Pour vous montrer la force de la pensée. Quelqu'un peut déjà se rafraîchir rien qu'à voir un verre d'eau. Il s'imagine en train de boire, il voit le verre d'eau là. Parce que la pensée a une force terrible. Elle a vu que c'était bon à manger. Il n'a pas fallu quelque temps qu'elle prenne la pomme qu'elle mange. Elle a mangé. Donc la même chose que Dieu te dit de ne pas faire par la pensée. Le diable, en affectant ta pensée, le diable peut t'amener à faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Et si maintenant, il a pu accéder à ta pensée,
Vous voyez, c'est comme ça qu'il bâtit les forteresses. Quand il a pu accéder à ta pensée, il dit, j'ai pu rentrer là. Ok, je vais faire de telle sorte que je puisse toujours revenir là, quel que soit ce qui se passe. Vous voyez? Parce qu'il est rentré dans un territoire. Il faut maintenant qu'il arrive à conquérir ce territoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ériger maintenant là une forteresse. Les forteresses sont bâties dans des endroits hostiles. Parce que quand tu maîtrises un territoire, tu n'as pas besoin de bâtir une forteresse. Tu fais un camp. Tu ne fais pas une forteresse. Quand tu fais une forteresse, c'est parce qu'autour, il y a des ennemis. Donc dans ta pensée là, il y a des pensées de Dieu. Et puis lui, il arrive, quand il arrive à rentrer, il faut maintenant qu'il bâtisse quelque chose de solide. Comme ça, il va pouvoir rester là longtemps. C'est comme ça que vous avez des gens qui vont obtenir leur délivrance des fois après 15 ans, des fois après 20 ans, des fois après 30 ans. Pourquoi? Parce que cette pensée-là, elle est tellement forte, tellement ancrée, que c'est un travail conscient qui est fait maintenant pour que la forteresse puisse tomber. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Donc, tu vois, le diable veut bâtir des forteresses. Ou il a déjà fait même. Il y a des forteresses qui sont déjà là. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est comme ça. Parce que quand on est né, on a grandi dans une famille qui, pour beaucoup, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, ils nous ont injecté un mode de pensée. On est allé dans des écoles où les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, nos professeurs, ils nous ont formaté des manières de penser. On a rencontré des gens et des jeunes avec qui on est devenus des amis. Et eux, ils nous ont passé également leur manière de penser. Donc, vous voyez, on a été formatés pendant des années et des années. Et puis, un jour, on a découvert l'évangile. Et puis, on est venu à l'évangile. Maintenant, il faut que cet évangile-là fasse quoi? Il faut que ça reprogramme notre manière. Il faut qu'on reprogramme notre manière de penser. Et maintenant, bien entendu, à certains moments, il va arriver des moments où il y aura un conflit. La Bible dit ça, mais moi, j'ai été habitué à penser que c'est là que le travail se fait. La Bible dit ça. Il n'y a pas de mais. Il faut que je fasse le travail nécessaire pour ne plus qu'il y ait de mais entre ce que la Bible a dit et ce que je fais. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier ton Dieu ce soir. Nous sommes dans notre moment de 3 jours de jeûne et prière. Tu vas parler à ton Dieu sérieusement. Tu vas lui dire que tu veux te positionner pour aller encore plus loin. Tu veux te positionner pour aller de l'avant. Alléluia. Et que tu sais que tant qu'il y a des forteresses dans ta vie, tant qu'il y a des forteresses dans tes pensées, l'ennemi va en profiter. Tant qu'il y a des forteresses, l'ennemi va en profiter. Donc tu vas prier ton Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, pendant ces 3 jours de jeûne, je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu me donnes la force de pouvoir confronter les forteresses, que tu me donnes les stratégies pour pouvoir renverser les forteresses, que tu me donnes les armes pour pouvoir renverser les forteresses. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir renverser toute forteresse dans ma vie au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir renverser les forteresses de l'incrédulité, les forteresses du doute, les forteresses de la peur, les forteresses de la médiocrité, les forteresses, Seigneur mon Dieu, de la pauvreté. Je veux les renverser. Je veux les renverser. Je veux les renverser. Je veux les renverser au nom de Jésus. Élève la voix, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Des miracles que tu pensais être inaccessibles vont te devenir accessibles. Des choses que tu pensais ne pas être possibles vont devenir possibles. Oui, Seigneur, manifeste ta grâce. glorifie ton nom. L'impossible devient possible. Car les forteresses tombent dans nos vies au nom de Jésus. Les forteresses sont renversées au nom de Jésus. L'impossible devient possible. Car les forteresses sont renversées dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous expérimentons la délivrance dans chaque aspect de nos vies qui a besoin de délivrance. Nous expérimentons la libération dans chaque aspect de nos vies qui a besoin de libération. Nous sommes affranchis par la vérité. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Merci Seigneur parce que tu nous affranchis. Merci Seigneur parce que les œuvres de l'ennemi s'arrêtent dans nos vies. Et les forteresses qui ont été érigées seront renversées par ta main puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Père, j'exalte ton nom, je bénis ton nom pour ce programme de 3 jours de jeûne et prière. Je crois que quelqu'un qui a choisi de venir à ce programme ne va pas finir ce programme sans avoir des réponses nettes et claires par rapport aux questions qui se posent, auxquelles se posent. Je crois, Seigneur, qu'à travers ce programme, tu vas agir de manière puissante et tu vas positionner tes enfants, tes fils et tes filles, tu vas les positionner pour être capable de voir ta gloire se manifester. Pendant ces 3 jours de jeûne, Père, je prie que le Saint-Esprit entre en relation privilégiée et particulière avec chacun d'entre eux pour leur révéler à chacun d'entre eux toute forme de forteresse établie dans leur pensée au nom de Jésus. Que une après une, les forteresses de l'ennemi soient renversées afin que nous soyons définitivement positionnés pour la gloire. Car nous savons que personne ne marchera dans la gloire avec une forteresse dans son esprit, dans sa pensée. Que les forteresses soient renversées et que la gloire soit manifestée. Je bénis ton nom pour chacun d'entre eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta force, ta vie, ton onction, celle qui nous rend fort face à l'adversité, celle qui nous rend fort, celle qui nous rend fort face au combat, celle qui nous rend puissant face à l'adversité, que cette force et cette onction-là, Seigneur, qu'ils en soient revêtus. Revêt-les de force et donne-nous d'avoir un moment de jeûne puissant pour affecter de manière irréversible notre destinée. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.